Zéro, Brassage Radio. On va reparler encore de la ville aujourd'hui. Comment est-ce que les rapports sociaux de domination façonnent l'espace et en retour renforcent ces rapports de domination? Une fois, j'ai entendu dire qu'en 1968, il y avait un graffito à la Sorbonne qui disait « Les structures ne descendent pas dans la rue ». Faut vraiment être étudiant pour penser qu'un tel graffito puisse parler à quelqu'un. Ce que j'en comprends, c'est une sorte de volonté de reprendre son destin en main, que de ce qu'on peut en faire. En fait, de notre liberté face à une vision écrasante des structures sociales qui nous enferment, nous contraignent, nous obligent. C'est tellement rassurant de penser qu'on peut, avec un peu d'astuce et d'espièglerie, se défaire de la manière dont la société nous oblige à être, nous contraint à faire. C'est pas que c'est impossible. C'est vrai qu'on a rarement vu passer un rapport social, de classe, de genre ou de race dans la rue. Pourtant, la ville elle-même est une concrétisation de ces rapports. Et de fait, elle contribue à les produire et les reproduire. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter des coups sur la table. Désolé, c'est vraiment pas moi qui ai choisi le nom. C'est un podcast de Victoire Tuaillon sur les masculinités. Il y en a d'autres, vous pouvez les trouver sur Internet. On entend un sociologue, Yves Rébeau, démonter précisément la façon dont les villes se construisent par et pour les hommes. Ensuite, je vais me permettre de donner quelques pistes bien moins éclairées sur les effets des rapports de classe et de race sur la construction des villes. Bonne écoute.
Bras zéro, approchez-moi du micro.
Les couilles sur la table, épisode 25. Dans cet épisode, je vous propose de partir en balade. On va se balader où vous voulez, mais en ville, la ville où vous vivez, la ville où vous avez grandi, parce que de toute façon, c'est là qu'on vit pour 80% d'entre nous, les Françaises et les Français, c'est là qu'on vit maintenant. On va être avec un géographe spécialiste de la ville et du genre, Yves Rébeau. Bonjour Yves Rébeau.
Bonjour.
Alors avec vous, on va se demander qu'est-ce que ça veut dire de grandir et de vivre en ville quand on est un garçon, un mec, un homme. Vous êtes l'auteur de La ville faite par et pour les hommes. C'est un super petit livre très synthétique publié chez Belin. Comment l'urbanisme, l'architecture, les choix qui sont faits tous les jours dans les conseils municipaux façonnent nos villes, mais aussi la manière dont on se comporte, dont on se sent en tant qu'homme. Comment est-ce que ça façonne les masculinités contemporaines? Moi aussi, j'ai grandi en ville comme une fille. J'ai vécu dans 5 villes différentes en France, dans 14 appartements en tout. Et les rues dans lesquelles j'ai vécu ont toujours porté des noms d'hommes, des noms de généraux, des noms de peintres ou à la limite des noms de batailles. Adolescente, j'allais accompagner des copains au skatepark, mais il était évidemment hors de question de monter moi-même sur une planche, ça se faisait pas. On allait écouter du ska et du punk rock à la MJC, il y avait que des mecs sur scène et nous on dansait. Le soir, on allait sur les quais de la Loire, parce que c'était le seul endroit où on pouvait faire la fête, mais c'était sombre, et ça sentait l'urine, parce que les mecs ne se gênaient pas pour se soulager un peu partout. Puis on savait que c'était dangereux, qu'il y avait plein de mecs louches. C'est pour ça que j'ai appris à jongler avec des chaînes enflammées pour pouvoir me défendre quand on m'agressait. Et c'est en lisant votre livre que j'ai compris que ces expériences, typiquement féminines, avaient à voir avec des décisions d'urbanisme, d'architecture qui ont été prises, et donc qu'il aurait pu en être autrement, et que peut-être les adolescentes et les adolescents des générations suivantes auront un tout autre rapport à la ville. Mais allons nous promener Et on peut remarquer que la plupart des rues par lesquelles on va passer portent des noms d'hommes. En fait, il y a un tiers des rues en France qui ont des noms de personnalités. Et 94% de ces rues-là ont des noms de mecs. Comment ça s'explique ?
Ben, tout simplement, enfin, pas tout simplement, hein, c'était un fait historique. Qui nomme les rues ? Ce sont les hommes, dans la mesure où ce sont les conseillers municipaux, autrefois les rois, les princes, les intendants, et qu'effectivement, chacun aime bien honorer quelqu'un de son entourage ou des personnes mortes, dans le secret espoir qu'on en fera de même après pour lui. Par exemple, à Bordeaux, le nouveau pont s'appelle Chaban-Delmas, il a été inauguré par Monsieur Juppé, mais quelque part, quelqu'un lui rendra effectivement...
Donc, inauguré par le maire Monsieur Juppé, voilà, c'est ça. Qui rend hommage à l'ancien maire de Bordeaux, Chaban-Delmas.
Voilà, j'ai pas précisé. Et donc, on voit bien aussi que ce qui peut transformer les choses, effectivement, c'est que des conseils municipaux soient paritaires et qu'il y ait une volonté publique d'honorer des femmes. Encore faut-il que l'histoire n'ait pas gommé de l'histoire de toutes les femmes peintres, de toutes les femmes écrivaines, de toutes les femmes musiciennes qui ont existé mais qui ont été gommées des histoires de la musique, de l'art, etc. Que les femmes scientifiques aussi soient honorées à leur niveau et les femmes politiques aussi. Donc, ça suppose un renversement qui est en train de se faire dans un grand nombre de villes, hein, notamment
là, le tramway, par exemple, à Paris, il est paritaire, le T3, je crois.
Alors, ça commence. Il y a un tramway paritaire. Hein. En fait, il y a eu aussi des discussions amusantes, par exemple, sur, je crois que c'était les Abbesses, hein, où je ne sais plus, il y avait une rue. Mais enfin, en tout cas, il y a une volonté réelle de la mairie de Paris d'aller à contre-courant et de nommer. Mais en dehors de ça, sur les noms de rues, après, ce qui est amusant aussi, c'est de voir où sont les femmes. Hein, c'est-à-dire, Georges Sand a une impasse, Louise Michel une rue, mais les ponts, les avenues sont toujours
ça vous dit que les ponts, les avenues, c'est voilà, les grands c'est hommes, ça, voilà. Et les ruelles, les impasses, voilà. Les placettes, c'est des noms de femmes.
Voilà. Et les écoles maternelles, les stades seront des mecs, et les écoles maternelles, des femmes. Donc on voit, il y a toute une réflexion à mener, aussi en honorant les grandes scientifiques, les grandes, voilà.
Mais en fait, pourquoi c'est important, les noms ?
Mais parce que c'est surtout le design urbain, la signalétique urbaine, tout rappelle aux filles et aux femmes qu'elles sont, elles ne sont pas prioritaires dans la ville.
Donc tout rappelle aux mecs et aux hommes et aux garçons qu'ils sont prioritaires dans la ville.
Bien sûr, bien entendu. C'est-à-dire, donc les femmes dans la ville sont seins nus sur les statues d'autrefois, assassinées sur les affiches d'opéra. Dans les 10 opéras les plus joués au monde, je ne vous les cite pas, enfin c'est 10 meurtres de femmes ou bien 10 suicides, etc. Donc on voit bien que ce fémicide, eh bien, il se traduit également par la présence permanente de choses qui ramènent les femmes à leurs conditions. Donc aussi bien se promener seins nus dans la ville est un attentat à la pudeur, alors que de faire de la fitness, enfin de la musculation dans une opération de fitness torse nu pour un homme est tolérable, aussi bien dès qu'on passe sur les monuments, les femmes sont seins nus et les hommes sont habillés. Vous voyez, donc on voit bien que cette symbolique, ce design urbain, constamment, eh bien, il y a un continuum qui fait que l'image de la femme est reléguée à son statut d'objet sexuel. Et donc, elle va dans la ville. Du coup, les femmes vont dans leur ville à leurs risques et périls dans une ville qui est masculine, agressive et qui accepte le fémicide et l'agression sexuelle.
Oui, je pense aussi aux images publicitaires.
Bien sûr, oui, le sexisme dans les images publicitaires. Ce qui est intéressant, ce que j'essaie de montrer, c'est le continuum, vous voyez, et que quelque part, on ne peut pas condamner l'image publicitaire ou bien l'attitude agressive de jeunes garçons qui écoutent du rap ou bien l'attitude intolérable d'un groupe d'hommes qui matent les femmes en faisant... voilà. Et puis aussi, les productions culturelles nobles, hein, la sculpture, l'opéra, les frises, et on voit bien qu'il y a une continuité de cette histoire de la ville qu'on retrouve dans la littérature aussi.
Oui, alors ça c'est important, vous faites bien de le rappeler parce qu'on a tendance à dire que les comportements sexistes en ville, ce serait le fait d'une certaine frange de la population, donc comme par hasard des jeunes hommes racisés en gros, et que qui serait en gros pas de notre culture, hein, c'est les autres, c'est pas nous. Alors qu'en fait, nos grands poètes, nos grands écrivains et tout, se sont pas privés non plus de mettre en valeur le harcèlement des femmes et aussi à faire comme si la ville leur appartenait. Et je pense à ce thème de la ville-plaisir, que ce soit chez Baudelaire, par exemple, ou chez Aragon, avec Le Paysan de Paris, ou André Breton avec Nadja. En fait, donc c'est ce thème, cette image-là du poète qui a le droit de flâner, qui a le droit de jouir de la ville, qui a le droit de regarder les femmes passer. Et s'il n'en a pas une gratuitement pendant la journée, il ira au bordel, en gros. C'est ça, et on a grandi avec ça, en fait. Aussi, on a été éduqués avec cette production culturelle-là qui est reconnue comme noble et pas problématique.
Voilà, tout à fait. Donc, vous avez cité les auteurs, mais on peut les citer depuis le Moyen-Âge, avec Villon, etc. Il y a, à partir du moment où les universités existent, on refuse les femmes dans les universités, le bordel est le lieu de socialisation des intellectuels, hein, entre eux, et ça permet de mélanger classe sociale. Et là, on retrouve ça en continuité. Bon, on peut voir, par exemple, la production massive, hein, on pourrait dire pratiquement exclusive de lieux de prostitution par la peinture du 19e siècle. Hein. Il y a eu cette exposition récemment sur la prostitution, les prostituées, hein, donc qui est vraiment le cabaret, Toulouse-Lautrec, etc. Enfin bon, il y a vraiment cette image très très forte, et c'est une image de la ville plaisir, hein, qu'on retrouve aussi bien dans la chanson française, enfin j'ai mille exemples de ça, que dans la littérature. Et puis même sur le harcèlement de rue, Philippe Roth est mort il n'y a pas longtemps, donc je me suis dit, tiens, je vais relire un de ses bouquins, donc j'ai lu Le complexe de Portnoy, mais en fait, il raconte comment, quand il est adolescent, il se masturbe dans le tramway en désirant la fille qui est en face. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... c'est de la grande littérature, vous voyez.
Moi, j'ai pas trouvé l'équivalent féminin de ça, quoi, d'œuvre d'art d'une femme qui jouit de la ville, qui s'y sent en liberté, qui a le droit de qui se sent autorisée à s'asseoir où elle veut, oui, à mater les mecs et à flâner.
Voilà, j'insiste aussi sur la masturbation, parce qu'effectivement, l'exhibitionnisme...
Ou qui se masturberait dans les transports ou dans l'espace public en regardant un mec, ce n'est pas possible.
Enfin, une femme qui fait ça est de toute manière pathologique et enfermée de suite, alors que c'est une pratique courante dans les enquêtes qu'on fait. Les exhibitionnistes sont légion, hein, je veux dire. Donc, et l'exhibitionnisme, c'est très intéressant et pas étudié, parce que c'est montrer son sexe dans la ville pour un homme, c'est affirmer comme d'uriner dans la ville, comme après toutes les productions symboliques, hein, qui sont d'ailleurs analysées comme telles, comme le graphe, hein, par exemple, les philosophes du graphe ou les gens qui ont travaillé sur le graphe parlent effectivement d'éjaculation sur les murs ou bien de projection sur les murs du désir, hein, et que c'est ça la créativité. Donc il y a bien cette idée de créativité qui se jette sur les murs et dans la ville, et ça c'est bien très typiquement une production masculine, qu'on retrouve aussi dans la musique par le gros son, etc. Voilà.
Je repense aux scènes là, quand la France, l'équipe de France de football a gagné la Coupe du Monde, où il y avait plein de mecs à poil dans la rue et tout le monde trouvait ça normal.
Enfin, le lendemain, il y a eu quand même, c'est les signes des temps, énormément de protestations de femmes qui avaient été agressées dans la rue au moment de la Coupe du Monde. Comme depuis, c'est vrai que depuis Balance ton porc, mais aussi les hashtags, etc. Maintenant, finalement, chaque fois qu'il y a des choses, tout à coup, il y a des protestations qui surgissent. On sait qu'il y a des viols aux fêtes de Bayonne ou bien dans les festivals rock en Suède. Que c'est un phénomène qui est global, le danger pour les femmes de la place publique. Et aussi, ce rappel, hein, on a aussi des personnes, des performeurs de genre parmi nous, les hommes, qui rappellent aux filles qu'elles sont là aussi, et quelque part, il faut qu'elles se tiennent à leur place et qu'elles ne sont que des objets sexuels. Et donc là, on voit bien aussi ce terrorisme sexuel dans la ville qui est vraiment un fait d'une culture masculine, des cultures masculines qu'on appelle, nous, sociologues, hégémoniques, hein, enfin, en faisant référence, évidemment, à la littérature.
Grandir comme un garçon puis comme un homme en ville, ça veut aussi dire qu'il y a des lieux pour qu'on s'amuse et pour pratiquer ses sports préférés. Par exemple, le skateboard ou les terrains de pétanque ou les terrains de basket. Vous citez ce chiffre, les équipements de loisirs qui sont mis à la disposition des jeunes de 8 à 20 ans par les collectivités servent deux fois plus aux garçons qu'aux filles.
Oui, et ça va même plus loin, c'est trois fois plus. Alors, les équipements publics, hein, skatepark, city-stade, terrain de boule.
C'est quoi un city-stade ?
C'est un terrain de sport multifonction, mais en fait qui sert pratiquement qu'au foot, qui est un stade de mini-foot avec des grillages autour. Et c'est un équipement standard qui a été vraiment, je crois qu'en Europe, il doit y en avoir 150 000, etc., et qui a été vendu et souvent installé dans des petites communes, même rurales, avec des aides des conseils départementaux ou bien de l'État parfois, enfin moins de l'État maintenant, et qui sont considérés comme des lieux de socialisation des jeunes. On dit là, ils peuvent s'amuser, donc il vaut mieux qu'ils se défoulent sur un city-stade ou un skatepark plutôt qu'ils fassent des conneries dans la rue. Mais on occulte que les jeunes, c'est uniquement les jeunes garçons. Et qu'en fait, en créant ces lieux, eh bien, on crée un continuum d'espace masculin. et que ces espaces masculins sont aussi des lieux de virilité, de consolidation de l'identité virile, et surtout ces lieux extrêmement nombreux où les garçons sont sollicités à coopérer en groupe de garçons, alors qu'à l'extérieur, il y a très peu de lieux et en général, ils sont faiblement subventionnés, faiblement sollicités, où les filles puissent se socialiser entre elles. Donc on voit bien que dès le départ, la socialisation des filles entre elles ne fait pas partie du programme. Par contre, la socialisation des hommes entre eux sur l'image virile pour pas qu'ils deviennent homosexuels, puisque ça, c'est la grande panique morale, c'est que les garçons deviennent des PD, quoi. Donc là, on voit bien que ça, c'est d'utilité vraiment générale. Et c'est aussi pour ça que, quelque part, parler de ces lieux, c'est parler aussi de la construction de la virilité en ville et des modèles patriarcaux.
Mais ça, c'est hyper intéressant. Vous dites que même les salles de répétition, les salles de concert, tout ça, ça fonctionne comme des maisons des hommes. En fait, c'est des lieux où se construisent la masculinité.
Voilà, la référence, c'est Maurice Godelier. Hein. C'est-à-dire que c'est effectivement les sociétés mondiales se construisent en général, enfin, les sociétés patriarcales, mais elles sont mondiales, hein, dans beaucoup de civilisations, grâce à des lieux qui peuvent être, dans certains en Iran, des saunas ou des hammams masculins, dans d'autres lieux, c'est des confréries, ça peut être la franc-maçonnerie qui a ses restos, etc. Oui, alors après, des lieux où il y a vraiment une socialisation autour du jeu ou autour le sport a cette fonction-là aussi, et où finalement le jeu et la compétition entre les garçons pour élire le mâle dominant, hein, on connaît ça en politique, hein, et puis effectivement, ça passe aussi par l'exclusion du trait, du lâche, du bas loyal, du PD, de l'efféminé. Voilà. Ouais. Et donc là, on voit bien que
c'est. Et des femmes, évidemment.
Alors évidemment, ça se construit à la fois sur la détestation des femmes, l'éviction des femmes, et par contre sur leur mythification comme objet sexuel. J'avais fait une enquête sur un lieu de répétition du rock, enfin c'était un de mes étudiants qui jouait dans ce lieu de répétition où il y avait 96 garçons et deux filles, et donc il avait fait une enquête en disant, ça s'appelait le blockhaus, hein, parce que c'était dans un ancien blockhaus allemand qui avait été aménagé en lieu de rock, et il disait qu'est-ce qui est bien dans le blockhaus, et les garçons presque unanimement avaient répondu, il n'y a pas de meuf. Et alors, après, dans une autre question, il disait, qu'est-ce qui manque de... Non, il n'y a pas de filles, il disait, voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui manque dans le blockhaus? Ça manque de meufs. Donc, vous voyez, cette deuxième de direction, vous voyez bien que...
Il y a longtemps, ça?
L'entre-soi, c'était il y a 10 ans, enfin, je veux dire, donc c'était hier. Hein. Donc, l'entre-soi masculin se construit sans les filles, hein, parce que les filles, elles font chier, elles sont, etc. Elles vont, voilà, puis nous, on a besoin d'être entre garçons. Et en même temps, elles construisent un désir collectif vers une meuf considérée comme un objet sexuel, qu'on aimerait bien faire venir dans le blockhaus pour en profiter, vous voyez. Donc on voit bien que ces lieux de construction masculin, il n'y a pas l'équivalent chez les filles. Chaque fois qu'ils se construisent, d'ailleurs, ils sont dénoncés. Si 4 filles des quartiers ou 50 filles des quartiers veulent un local privé dans lequel elles veulent faire de la gym, on va dire que c'est un lieu communautaire, que c'est, etc. Et chaque fois que les lieux féminins existent, d'entre-soi féminins, ils sont extrêmement faiblement subventionnés, décriés.
J'arrive même pas à penser à des lieux qui soient des lieux d'entre-soi féminins.
La danse, la gymnastique rythmique et sportive, le twirling bâton, les majorettes, le poney, hein, ça c'est des filles. Mais chaque fois qu'on en parle, on dit c'est ridicule, ringard, démodé, quoi. Le poney, on n'ose même pas en parler, quoi. Les filles que je connais, même les garçons qui faisaient de l'équitation, n'osaient pas dire qu'ils faisaient de l'équitation, ils le cachaient de peur de passer pour des homosexuels, des filles. Donc on voit bien aussi cette disqualification des lieux d'entre-soi féminin et par contre une hypervalorisation, hein, c'est une valence différentielle des sexes pour reprendre l'expression, hein, qui valorise, si comme dans les entretiens que je fais avec les élus, le skate, le graff, le rock, c'est important socialement, c'est l'expression populaire des quartiers, des jeunes, c'est la créativité, hein, le twirling bâton, la danse, le poney, ridicule, ringard, c'est pas intéressant, hein. La même année, c'était il y a 5 ans, où l'équitation, qui est un sport féminin, 700 000 licenciés sur 800 000, hein, sont des femmes en France, eh bien, l'équitation qui n'était déjà pas subventionnée est passée à la TVA, hein, c'est-à-dire on a imposé la TVA. Et la même année, l'euro de football a été exonéré de TVA. Et donc, si on regarde ça avec les lunettes du genre, on voit que chaque fois qu'il y a le loisir, et d'ailleurs, c'est une thématique générale du plaisir, est pris par les femmes, bien, il n'est jamais valorisé, hein, il est toujours disqualifié. Hein. Par contre, le plaisir masculin, et ça a rapport évidemment avec la sexualité, hein, c'est-à-dire que le plaisir masculin, la masturbation, etc., est importante, les filles, le plaisir féminin, eh bien, c'est quelque chose de secondaire. Parce que, bah, finalement, la tâche principale des femmes, ça va être d'être esclaves domestiques. Hein, je reprends des standards du féminisme matérialiste. Et leur lieu principal d'activité, ça va être la cuisine et les enfants. Hein. Où va-t-on si les filles se mettent à passer leur journée sur des jeux vidéo, sur le skatepark et à glander dans la rue, je veux dire. Là, c'est la révolution, vous voyez, c'est... Voilà.
Bah oui, c'est vrai que même pour les enfants, on encourage beaucoup plus les garçons à jouer que les filles. On les laisse beaucoup plus jouer que les filles.
Oui, on les fabrique comme ça, donc tout à fait en relation avec les analyses de Françoise Héritier et d'autres, hein, bien sûr, on connaît surtout elle, sur le fait qu'on nourrit plus les garçons, on accepte plus qu'ils pleurent. Et puis surtout, après, on les incite à jouer. Hein, c'est-à-dire que les garçons sont incités à jouer parce que c'est nécessaire. Il y a une espèce de croyance que leur testostérone
se dépense.
Ouais. Alors qu'une fille qui est hyperactive, elle sera tout de suite rappelée à l'ordre.
Mais du coup, après, ils n'ont plus le temps pour s'occuper de la maison, de leur famille, de leurs petits frères et sœurs et tout.
Exactement, quoi. Donc il y a ça. Et puis, il y a aussi, par contre, il existait un lieu intermédiaire mixte où, effectivement, les choses auraient pu être mises à l'heure. C'est l'école, ça existe toujours. Hein, mais on voit bien que les garçons, l'école, ça ne leur convient pas. C'est ce que vous dira Sylvie Hérald si vous l'invitez. C'est-à-dire qu'effectivement, être bon élève, c'est être un bouffon, un intello, etc. Hein, et donc, c'est mal vu. Hein, donc, il ne faut pas trop travailler. Si on travaille bien, il faut être dans des disciplines standards de la virilité, sport, maths, technologie, mais pas question d'être bon en musique ou en art plastique ou même en littérature pour les garçons. C'est être soupçonné, avoir une pression sur soi et soupçonné d'être, de ne pas être un garçon.
Mais du coup, c'est quoi la solution ? Il faut forcer les filles à faire du skate ? Il faut détruire les skateparks ?
Il n'y a pas besoin de forcer les filles à faire du skate. C'est chaque fois qu'on leur ouvre les portes d'un équipement. Je vois à Bordeaux, le sud-ouest, c'est un territoire de rugby, par exemple. Dès qu'on a ouvert, l'Union Bordelaise a ouvert des équipes de rugby féminine, ça a eu un succès sans précédent, un engouement par le rugby terrible. Hein, et donc, on voit bien que aussi dans les villes où ils ont fait, enfin notamment dans les villes suédoises, où ils ont ouvert le skatepark avec une journée non mixte filles, le skatepark a été plein. Et que par la suite, les filles s'étant bien entraînées sur ce skatepark non mixte, eh bien, elles ont été ensuite progressivement sur le terrain des garçons. Donc on voit bien qu'il n'y a pas besoin de forcer les filles à faire du sport. Elles aiment faire du sport, mais elles sont disqualifiées dans le sport parce qu'il n'y a pas d'espace pour elles. Et là, c'est les études qu'on a faites sur Genève et Bordeaux, sur les pratiques sportives, montrent bien que ce n'est pas une autocensure sur le sport. C'est simplement parce que quand on est adolescente en collège et que dès qu'on se met en maillot, il y a les garçons qui disent « t'es grosse, t'es moche », etc. Quand on est mère de famille, qu'on n'a pas un temps de libre pour faire du sport, ou bien quand on cherche à faire du sport, les sports qu'on pratique sont à l'autre bout de la ville. Enfin, il y a 4 ou 5 raisons majeures qui font que 80% du budget du sport profite aux hommes. Hein. Et par contre, quand les femmes veulent faire du sport, mais ça c'est la règle générale, elles payent leur sport en salle gym, ou alors elles le payent en prenant des risques, en allant courir dehors, au risque du harcèlement de rue. Donc on voit bien que le contrôle social il est extrêmement fort sur les corps pour que les rôles sociaux de genre restent les mêmes.
Vivre comme un homme en ville, ça veut aussi dire que ceux qui ont pris les décisions urbanistiques, les décisions de politique quotidienne, sont du même sexe que vous. Parce que qui dirige les villes ?
Oui, donc ce sont les hommes, là. Enfin, je pense que actuellement, on est au milieu du gué. Hein. Par exemple, on a des conseils départementaux qui sont paritaires, des villes qui sont paritaires. Mais parallèlement, les agglomérations sont non paritaires, puisqu'elles ne sont pas élues sur le principe de la parité. Et il est sûr que dès qu'une collectivité est paritaire, c'est le cas des conseils départementaux, hein, qu'on ressent moins à Paris, mais qu'on ressent plus en province, eh bien, les décisions changent totalement. C'est-à-dire que la parité donne le pouvoir aux femmes d'avoir un pouvoir égal à celle des hommes en collectif, et ensuite d'imposer aussi une vision de la ville qui est forcément culturellement différente, puisque la culture des femmes à laquelle elles sont assignées, le travail forcé des femmes, c'est les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, et qu'effectivement, quand elles transportent en politique, sauf si elles sont isolées et socialisées comme des hommes, mais quand elles sont massivement en groupe, transportées en politique, eh bien, elles s'intéressent à la ville qui soigne. C'est à la ville qu'elles ont connue en poussant un fauteuil roulant, en accompagnant, en tirant des bébés derrière, en accompagnant les personnes. Et du coup, cette vision de la ville, elle se transforme profondément quand on écoute la voix des femmes. Voilà. Je voulais dire aussi que...
Oui.
Les femmes n'ont pas l'apanage du care, et que si on devait
éduquer... Le care, c'est le soin des autres.
Le soin des autres. Mmh. Et que c'était une question que vous m'avez posée avant l'émission. Hein. Si on doit penser l'éducation des garçons, il faudrait apprendre aux garçons à avoir plaisir à faire la cuisine, à s'occuper de leur intérieur, à avoir plaisir à chanter dans la chorale en mixité, à faire des activités avec les autres. Et justement, leur apprendre la mixité. Hein. S'il devait y avoir, entre guillemets, un forçage, hein, c'est du côté des dominants, pas du côté des dominés. hein, c'est-à-dire de dire aux dominants, leur apprendre à faire du sport mixte. Dans l'enquête qu'on a fait à Genève et Bordeaux, c'est très caractéristique. Autant les femmes disent souhaiter, et même c'en est étonnant, on leur demande est-ce que vous souhaiteriez faire des activités mixtes avec des hommes. Elles disent oui, selon certaines conditions, qu'ils ne tapent pas trop fort, qu'ils soient, etc. Et quand on demande aux hommes est-ce que vous aimeriez faire des sports mixtes, la totalité disent non. Ils ne veulent pas faire du sport avec les femmes. Vous voyez, donc la non-mixité, hein, c'est les hommes qui ne veulent pas de la mixité, ce n'est pas les femmes. Vous voyez.
Donc, il faut apprendre aux garçons à prendre soin des autres aussi.
À prendre soin des autres et puis apprendre à coopérer aussi, notamment dans le sport, dans la musique, dans le théâtre. C'est-à-dire, ce que je préconiserais, c'est le sport mixte obligatoire, hein, et non pas la séparation des garçons et des filles à partir de 10 ans dans des espaces distincts. Puisqu'on voit bien que la séparation des sexes entraîne une disparition des équipes de filles et puis l'appropriation de tous les moyens pour les garçons.
Oui, mais en même temps, tout à l'heure, vous disiez que c'était bien les journées aussi en non-mixité parce que les filles, elles reprenaient confiance en elles, elles osaient faire des choses, etc. Parfois, la non-mixité, ça a quand même du bon.
Alors, ça a du bon quand il y a des différences notoires. Hein. C'est comme le budget genré. Hein. C'est-à-dire que quand on analyse que 75% des budgets publics vont aux garçons, il faut se donner l'objectif de 50%. Les filles en profiteront. Et si elles en profitent, elles peuvent en profiter de deux façons, dans la mixité et puis dans la non-mixité. Mais la question n'est pas finalement de faire une égalité de traitement des filles et des garçons tant que cette égalité budgétaire et de moyens n'est pas faite. Donc pour arriver à amener les filles par exemple au sport, il faut leur proposer à la fois les activités des mixtes et des activités non mixtes. Par contre, pour amener les garçons au sport, il faudrait leur imposer dès le départ, puisque c'est un code social d'égalité, la mixité. Voilà.
D'accord.
C'est asymétrique, si vous voulez, voilà.
Être un homme en ville, ça veut aussi dire qu'on se sent en sécurité dans sa ville, qu'on ne pense pas à... Les copains ne demandent pas à ce qu'on leur envoie un texto pour dire qu'on est bien rentré, par exemple. Ou on ne met pas un casque sur ses oreilles pour ne pas entendre des groupes de filles qui seraient en train de vous insulter. En France, en 2013, en Île-de-France, il y a plus d'une femme sur trois qui dit qu'elle a peur dans son quartier le soir, alors qu'il y a seulement un homme sur dix qui dit qu'il a peur dans son quartier. Donc, est-ce que être un homme, c'est avoir un sentiment de sécurité ou est-ce que c'est être vraiment en sécurité dans sa ville ?
Ah, c'est une bonne question. Juste, je vous reprends sur quartier.
Ah oui.
Quartier, c'est une connotation, vous voyez. Donc, il faut dire en ville parce que le quartier, ça peut être aussi le 15e arrondissement.
Dans le lieu où elle habite. Ouais.
Hein, parce que souvent aussi, je vous reprends, parce que derrière ce mot, il y aurait l'idée que finalement, c'est dans des quartiers périphériques, ça craint pour toutes les raisons qui sont induites et qui sont malsaines.
Non, c'est le lieu de vie, en fait. Il y a une femme sur trois qui vient en Île-de-France qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité dans l'endroit où elle habite, dans le coin où elle habite.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé à travailler sur le sentiment d'insécurité, jusqu'à effectivement découvrir que ce sentiment d'insécurité n'était pas une illusion. Hein. On disait à l'époque, les femmes sont plus en danger chez elles que dans la rue, puisque c'est là qu'arrivent, malheureusement, hein, les viols, les meurtres de femmes, etc. Et jusqu'au moment où on n'a pas seulement pris des enquêtes de police. Hein, une fille, par exemple, est suivie jusqu'à son domicile, elle va au poste de police, on fait une main courante, mais ce n'est pas signalé comme agression. Yann Rix, à la sortie d'une boîte, un garçon revient avec une légère estafilade à l'arcade sourcilière. Là, c'est considéré comme une agression. Donc, pour la police, il y avait rien à voir, il n'y avait pas d'agression. Jusqu'au moment où on a pris en compte les enquêtes sur le sentiment d'insécurité. Et on s'est rendu compte que 100% ou 80%, selon les enquêtes, au Conseil à l'égalité usagers des transports, des femmes avaient été harcelées dans les transports. Hein, qu'un très grand nombre avaient eu des agressions sexuelles, frotteur-frôleur, main aux fesses, etc. Un encore plus grand nombre avait été suivi dans la rue, pratiquement la totalité, et puis un certain nombre avait eu des baisers forcés, voire des viols caractérisés. Donc là, on s'est rendu compte que finalement, il y avait un continent inconnu, et qui n'était pas repéré par la police. Voyez. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sentiment d'insécurité, on disait, les femmes, elles n'ont qu'à avoir confiance dans la rue, mais ça a un effet performatif. Par exemple, dans l'enquête qu'on a fait avec mes collègues sur la fac, on a bien vu que le fait qu'il y ait des exhibitionnistes, des suiveurs, des harceleurs, des tripoteurs, faisait que les filles, elles déménageaient du campus pour aller en ville, donc elles payaient plus cher, elles avaient plus de transport, qu'elles n'allaient pas à la bibliothèque universitaire le soir, qu'elles n'allaient pas aux manifestations qui étaient organisées le soir sur le campus, et donc qu'elles avaient un obstacle dans la réussite de leurs études. Donc, il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien, puisque ça a un effet hein, sur les comportements. De même, sur les enquêtes qu'on a fait toujours sur les villes, on voit bien que le nombre de femmes seules dans la rue chute par 5, divisé par 5 entre la journée et le soir. Que le soir, elles sont accompagnées soit d'une copine, soit d'un copain ou d'un mari, hein, je veux dire, et que seules, eh bien, elles sont 5 fois moins nombreuses à se promener le soir. Que dans les petits films qu'on a tournés pour l'occasion, on voit bien que les costumes changent. Il y a un jour où il fait chaud à midi et le soir, eh bien, elles sont en short dans la ville à midi et le soir, elles sont en pantalon. Voyez, donc on voit bien qu'il y a un effet performatif de cette peur sur la ville et que cet effet performatif, eh bien, il est lié à la présence de performeurs masculins qui sont là pour rappeler aux filles, de façon systémique, hein, j'insiste, souviens-toi de ne pas oublier que tu es une femme et donc que je te siffle, que je te suis, que tu es bonne, que etc.
Que j'ai le droit de commenter ton apparence et tout. Et ça, c'est un truc que comprennent pas, peut-être maintenant les gens comprennent mieux, mais bon, moi, évidemment, comme toutes les filles, ça m'est arrivé dès l'âge de 11 ans. Voilà, dans la rue, ça m'est arrivé d'être suivie, agressée, insultée, etc. Et en fait, ce que comprennent pas les gens quand on leur raconte ça, c'est que les types qui font ça, les mecs qui font ça, n'ont pas du tout pour objectif de draguer. C'est pas de la drague, en fait. Ça sert pas à ça. Ça sert pas à séduire, voilà, ni à draguer et tout. Ça sert à vous rappeler sans arrêt qu'on a le droit de vous faire ça, en fait.
C'est ce que dit Mélanie Gourarian dans cet excellent livre qui s'appelle Alpha Mâle. Hein. Et c'est aussi pour dire aussi que, et là je parle en tant qu'homme, à quel point notre vision, ma vision, moi, de scientifique masculin, est une révision absolument terrible sur mon regard, quoi. C'est-à-dire que je me rends compte comment j'étais à 16 ans, 18 ans, même si j'étais, par rapport à mes collègues masculins, peut-être sensibilisé à la question pour diverses rien, ben, je regardais les filles, je les avais de haut en bas, j'étais dans le tramway, les jambes écartées, en me grattant si ça me grattait. Je veux dire, tous ces comportements qui sont dénoncés, eh bien, c'est les comportements que nous n'avons pas, sur lesquels nous n'avons pas de recul. Et du coup, ces affiches qui nous disent, qui nous parlent du regard insistant, de la position des jambes, du fait de suivre, eh bien, ce sont aussi pour nous des révisions hein, sur nos modes de vie, de ne pas pisser dans la rue. Je veux dire, eh bien, il faut que nous, hommes, on peut le faire à 4 ans, à 18 ans. Je veux dire, moi, je sais pas, moi, à mon âge, j'ai appris des comportements récemment, à cause de cette enquête dans les tramways, auxquels je n'étais pas sensible avant.
Comme quoi ?
Je sais pas, par exemple, curieux de nature, on dévisage les gens, mais nous, hommes, on a une tête de plus dans le métro, et puis on ne se rend pas compte que notre regard dominant d'homme peut être gênant ou intimidant pour des femmes, par exemple. Hein, ou bien le fait de se tenir jambes écartées, de prendre toute la place, avec notamment ce fameux écart des jambes, hein, je veux dire, c'est quelque chose aussi dont on n'a pas conscience, pisser dans la rue, etc. Donc plein de petites choses comme ça.
Et alors, vous ne trouvez pas qu'on peut plus, vous pouvez plus rien faire, c'est terrible. Vous êtes dévirilisé, tout ça.
Bah écoute, moi, je pense que c'est au contraire, c'est peut-être un enthousiasme. Moi, je suis heureux finalement de progresser. Je trouve que c'est aussi une question de respect, etc. Et du coup, ça me met aussi en veille par rapport à des gens qui n'ont pas ces comportements, à qui on peut dire tu ne devrais pas faire ça aussi. Je pense que la communauté des hommes a beaucoup à apprendre. Mais on a été mal élevés, on est des garçons mal élevés, donc il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne à nos garçons, petits, moyens, grands. Il faut qu'on fasse des remarques publiques sur le comportement de certains hommes. Et il faut que nous-mêmes, eh bien, dans les moindres détails, on réfléchisse à nos manières de faire. Voilà.
Il y a peut-être des auditrices et des auditeurs qui travaillent dans l'architecture, dans l'urbanisme. Vous dites que ce sont des sciences masculinistes. Qu'est-ce que vous leur recommandez à ces personnes qui travaillent dans ces domaines s'ils veulent s'engager pour plus d'égalité dans leur discipline? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Par quoi est-ce qu'ils peuvent commencer?
Oui, alors des sciences masculinistes parce qu'effectivement la science ayant été construite par l'homme et l'homme, l'Académie française en France, ayant établi le masculin neutre, on dit les habitants, les résidents, les migrants, etc. Et donc on a gommé tout ce qui était féminin. Et donc on ne parle féminin que comme d'une minorité, alors que ce n'est pas une minorité, vous voyez. Donc,
le fait c'est même la majorité.
Voilà, et donc ces sciences qui se disent neutres, hein, dès qu'on dit les habitantes et les habitants, etc., eh bien, on se rend compte à quel point la science neutre, dite neutre, elle est masculiniste. Donc on voit bien toute la géographie, elle est construite comme ça, et toute l'approche de la ville est construite sur un individu neutre. Donc on va dire l'habitant, il aime bien vivre dans une ville qui est durable, écologique, on respire bien pour pouvoir faire du sport, flâner, prendre du plaisir dans la ville. Mais dès qu'on décline les modes de vie des habitantes et des habitants, on se rend compte que cette ville durable, par exemple, où on ne peut plus circuler en voiture, eh bien, qui c'est qui s'occupe d'accompagner les enfants à l'école, la grand-mère à l'hôpital, etc. Qui c'est à qui on impose de mettre des talons le soir et qui est obligé de faire un kilomètre km sur des pavés d'une rue piétonne pour aller au théâtre. Donc, des milliers de petites choses comme ça montrent que finalement, la neutralité, eh bien, elle est pensée par et pour les hommes, hein, comme la science. Et du coup, quand on commence à décliner au féminin et au masculin et à penser aux questions de genre dans la ville, eh bien, tout l'urbanisme en prend un coup énorme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de quoi que ce soit sans réviser visiblement cette chose. Ça veut dire que le genre en urbanisme et dans les sciences sociales en général n'est pas à la périphérie, ce n'est pas une option. C'est une vision radicalement différente du monde. Hein. On sait que, par exemple, finalement, dans l'usage de la ville, dans les études qu'on a faites, eh bien, les plus grandes usagères, les usagers de la ville pour les commodités sont les femmes, parce que ce sont elles qui poussent les fauteuils handicapés, qui accompagnent les personnes âgées, qui accompagnent les enfants à l'école. Hein. Et donc, cette fonction sociale de circulation, elle est invisibilisée au profit de la ville performante, sportive, plaisir, etc. Donc là, effectivement, dans les sciences de l'urbanisme, urgent d'introduire les notions de genre et puis de care, de soins aussi dans ces études. C'est vrai que moi, je n'ai jamais été très à l'aise dans la communauté des garçons. Hein. J'ai vécu aussi, alors c'est un petit détail, parce que ça n'a pas été répétitif, mais une agression sexuelle aussi dans le métro, les bizutages des garçons, ou les grands qui bizutaient les petites sixièmes dans mon lycée de banlieue, on était 3800 garçons. Hein. Donc un des bizutages, c'était de faire asseoir sous soi et de pincer les couilles des garçons. Enfin, il y avait des sévices sexuels, hein, je veux dire aussi. Donc cette brutalité ne m'a jamais plu. J'étais pas bien dans cette société masculine. Et puis après 68, on a eu ce miracle de l'arrivée des femmes féministes qui nous en ont mis un coup, qui nous ont obligé à dire fais attention à ce que tu fais, fais attention à ce que tu dis, on partage les tâches ménagères. Donc j'ai vécu, moi, cette époque-là avec toutes ces ambiguïtés, parce qu'il y avait aussi une libération sexuelle qui n'était pas vraiment claire, hein, je veux dire aussi. Hein, mais c'était un bagage. Et après, le fait aussi que j'ai été dans l'éducation populaire, que j'ai créé un... À l'époque, j'avais créé un centre culturel en milieu rural, donc là aussi dans des lieux où il y avait principalement des terrains de sport pour les garçons. On avait créé des écoles de musique, danse, théâtre, arts plastiques, où se retrouvaient les filles et les garçons en mixité. Hein, donc, toutes ces activités, la danserade, la chorale. Donc, je suis totalement ringard au niveau de mes modes musicales, puisque c'est randonnée, potager et chorale. Hein, vous voyez, donc théâtre, voilà, ouais. Théâtre, voilà. Et d'une certaine manière, quand j'ai recommencé mes études et que j'ai travaillé sur ces musiques actuelles, musique amplifiée, puis après sur les sports urbains, j'ai tout de suite vu, que ce qui les caractérisait, c'est pas d'être les musiques, notamment le rock, tout ça, les musiques des jeunes et des quartiers fragiles, ce que se proclamaient être ces musiques, mais des musiques de garçons. Et que, justement, ces musiques de garçons étaient tout de suite l'objet d'une attention particulière. On leur trouvait des locaux, des scènes. Ils étaient très diffusés. Alors que les musiques mixtes ou de filles étaient invisibilisées et inconnues, hein. Il y a en France 1 200 000 ou 1 600 000 choristes, je crois, et 120 000 rockeurs, mais on ne parle jamais des chorales, vous voyez. Donc, sur les musiques amateurs, il y a plein d'orchestres où il y a des filles, les bandas du Sud-Ouest, les orchestres d'harmonie, on n'en parle jamais. Par contre, tout ce qui est les musiques préférées des jeunes, c'est toujours les modes de garçons, vous voyez. Et donc, là, il y a aussi une focalisation permanente là-dessus. Et ça m'a beaucoup intéressé, et j'ai tiré le fil conducteur des masculinités. Je dois dire que pour moi, ça a été aussi la fin aussi d'une progression personnelle, on pourrait presque dire d'une thérapie. C'est-à-dire qu'effectivement, au fur et à mesure que j'avançais, eh bien, je voyais la catastrophe qu'étaient les masculinités, qu'était notre propre éducation de garçon. À quel point, je veux dire, c'était violent. Ça se traduisait par des dizaines de milliers de viols par an, par des assassinats de femmes, par une sans arrêt. Et puis consacré par le cinéma, comme vous savez tous ces films policiers qui commencent par une fille à la morgue, hein, comme dans l'assassinat des femmes, les violences sexuelles, comme thème récurrent de la création artistique. De ce point de vue-là, c'est aussi une conversion, hein, et puis une conversion qui va de pair aussi avec quelque chose que moi j'avais toujours aimé, c'était m'occuper des enfants, faire la cuisine aussi. J'ai trouvé que c'était super d'avoir une femme qui était, ma première femme était médecin, je veux dire, et d'être au foyer, de m'occuper des enfants, j'ai toujours trouvé que c'était génial, quoi. Enfin, c'était très bien, quoi. Très mal vu aussi bien des autres hommes et des autres femmes. Il ne faut pas croire que les hommes qui s'occupent de leurs enfants sont bien vus. Au contraire, ils sèment la zizanie. Parce que si vous dînez à table, que c'est vous qui desservez, etc., et puis qu'il y a des couples où c'est les femmes qui font tout à la maison, ben, ça met du malaise. ou si on discute de ménage et que les femmes disent oh, moi j'ai une femme de ménage qui dit bah non à la maison on partage les tâches ménagères, ben ça rend ridicule les hommes qui font pas le ménage, vous voyez. Et donc la tension est très très grande hein, quand on inverse les rôles. Et je pense que de ce point de vue là par contre ben on se retrouve aussi avec les hommes qui ont vécu cette expérience avec le plaisir, même s'il y a eu un divorce ou une séparation, de voir que nos enfants reviennent chez nous, qu'ils nous téléphonent tous les jours, etc. Parce qu'on a créé un lien, hein, à être capable de s'occuper d'une famille, d'une maison. Ça, c'est super, quoi. Hein, voilà. Et tout, c'est aussi... je ne dis pas qu'on a certainement plus à perdre qu'à gagner d'interchanger les rôles, mais on y a aussi à gagner en dignité, en bonheur, en partage, hein, en échange. Donc voilà, je crois que c'est le jeu en vaut la chandelle. Mais je ne dis pas que je suis arrivé au bout du chemin. Hein, j'ai certainement encore... et les hommes féministes ont toujours des progrès à faire parce qu'on a été dans une matrice qui a été terriblement contraignante. Hein.
Pour terminer, Vrebo, est-ce qu'il y a une œuvre artistique que vous avez envie de nous recommander ?
Alors là, je suis en train de lire un livre. Alors, c'est pas un livre féministe, hein, c'est un livre de très belle littérature qui s'appelle « Des hommes sans femmes ».
De Murakami.
Murakami, voilà, c'est ça. Et là, j'ai trouvé cet écrivain, enfin, que je connaissais déjà, et ses romans très bien, parce que ce sont des hommes qui sont tristes, tendres et doux, en fait, et qui vivent des ruptures ou des aventures, etc., d'une façon qui est toujours assez digne pour des hommes dans lequel je me reconnais, hein, puisqu'il n'y a pas... ni violence, ni agressivité, que la virilité est quelque chose qui est contenu, c'est aussi japonais, hein, je veux dire, avec une grande sensibilité pour les femmes. Donc voilà, c'est un joli petit recueil de nouvelles qui est très hétérosexuel, hein, je veux dire. Donc il y a d'autres bouquins qu'on pourrait recommander qui sont plus ouverts, hein, mais qui est assez doux, assez de les hommes doux. Voilà, j'aime beaucoup les films aussi, comme Un soleil, tout ça, où il y a des hommes doux et où il y a d'autres modèles de masculinité qui sont proposés.
Merci beaucoup Yves Rébeau.
Voilà.
C'était le 25e épisode des Couilles sur la table, le podcast de conversation sur la virilité, les hommes et les masculinités.
Qui va faire le ménage, nous on fait de la radio sauvage. Qui va faire le ménage, nous on fait de la radio sauvage.
Faut que je vous avoue un truc. En fait, le lundi soir, quand je suis pas là, j'écoute Brasero. Ouais. En tout cas, ça fait du bien de sortir du tiroir. Brasero sur Canal Sud 92.2 le lundi de 19h à 20h.
C'est bien, non ? Non, vous voulez qu'on fasse d'autres trucs ou c'était bien ?
C'est bon ? C'était pas trop timide.
Dans l'espace se projettent les structures de domination. La démonstration que Yves Rébeau fait au micro de Victoire Tuaillon dans le podcast précédent est édifiante. Finalement, les rapports de classe construisent aussi un espace particulier. Les riches ont leur espace, bien protégé, bien préservé. En général, ce sont des coins agréables à aérer. Aujourd'hui, assez connu que le comble de la ségrégation spatiale est atteint dans les dites « gated communities », espaces fermés, grillagés, gardés. La notion de gentrification est aussi assez répandue, cette idée que dans un quartier, la hausse des loyers, la transformation des lieux de convivialité et d'approvisionnement favorise une population plus riche au détriment d'une plus pauvre, qui est priée d'aller voir ailleurs si elle y est. Pour les pauvres, la distance du lieu de travail, les pollutions diverses, proximité de rocades, d'usines dangereuses, bas niveau de service, dégradation de la voirie. C'est aussi la restriction des espaces pour les très pauvres, ceux et celles qui fabriquent tant bien que mal un abri de fortune, dans les marges de la ville, dans des bidonvilles, des camps ou dans un habitat isolé. L'été 2007, à Toulouse, a vu un campement de plus de 50 ans expulsé pour un golf. Cet été, c'est le canal latéral à la Garonne à Toulouse, promis à un usage récréatif qui doit être nettoyé des cabanes, tentes, caravanes et autres habitations non conformes. C'est plus compliqué de voir comment le racisme comme rapport social structure aussi l'espace. En même temps, c'est une réalité qu'on a toujours sous nos yeux, mais qu'il est plus difficile d'appréhender, de mettre des mots dessus. Nous sommes trop habitués à ne considérer le racisme comme un trait particulier d'un individu un peu obtus. Parce qu'on est fermé à l'autre, parce qu'on est ignorant, on est raciste. Pourtant, la division raciste du monde, bien que contestée sur le plan biologique, s'est maintenue à travers des notions de différences culturelles. Colette Guillemin a écrit à ce sujet. Cette sociologue féministe considère le racisme comme une biologisation de la pensée sociale, c'est-à-dire l'attribution de caractères naturels essentialisés à des groupes sociaux considérés comme différents des autres. Alors si aujourd'hui on ne peut pas vraiment parler d'un racisme organisé en tant que tel avec un discours ouvert de classement des races en termes biologiques, comme on l'a connu en temps, il est évident que le racisme opère au quotidien, notamment à travers des catégories dites ethniques, comme africains, nord-africains, roms, pour organiser les attributions de logements, mais aussi les démolitions, qui visent à casser les communautés. L'utilisation aussi de dénominations à la fois globalisantes et infantilisantes, maman, grand frère, jeune des cités ou encore beurette. Ces manières de nommer les habitantes, de manière permanente, leur attribuent des places spécifiques dans la cité. Des associations pour les mamans mobilisées pour la richesse de leur diversité culturelle. Combien de fêtes où les mamans ont fait un délicieux couscous? Le jeune des cités aimerait bien parfois devenir adulte. Un gars croisé au Mirail me disait une fois que, passé 40 ans, il en avait marre que l'élu du coin le considère comme un jeune de quartier, tout en sachant bien que c'est dans cette case qu'il avait des chances d'obtenir un peu d'aide dans ses projets. Très clairement, nombre de quartiers populaires sont des quartiers marqués par le racisme, parce que si l'on est assigné à une catégorie d'étrangers, il est difficile d'obtenir un logement ailleurs ou pire. Être ailleurs, c'est être exposé à la discrimination. Alors si la gestion du parc social est une gestion qui repose sur le racisme, la supposée mixité sociale est aussi un processus marqué par le racisme. On l'a vu récemment à Toulouse, où le Conseil général a planifié la destruction de deux collèges dans les quartiers de la Rennerie et de Bellefontaine, obligeant les enfants à de longs déplacements matin et soir. Cette injonction à la mixité est impossible dans d'autres quartiers et traduit une vision de la population qui peut, d'une part, être déplacée et satisfaite d'aller ailleurs puisqu'évidemment chez elle, c'est mauvais. Et d'autre part, les parents n'ont rien à apporter à leurs enfants, donc le temps périscolaire n'est pas très important. Les enfants auront d'ailleurs des tuteurs dans les collèges d'arrivée.
Je suis parent d'élève de l'école Galia et j'ai des enfants au collège Raymond Badiou. Je ne vais pas te poser de questions parce que ça fait 4 ou 5 réunions à qui j'ai assisté. Il n'y avait pas de réponse. Aujourd'hui, je suis venue juste pour dire mon avis. Vous voulez le bien pour les enfants et tout. On s'est vu plusieurs fois. Mais... Et les parents? Vous avez demandé l'avis des parents? Vous venez juste de dire, on laisse le choix aux parents. Il est où le choix? Mes enfants, ils sont scolarisés à Galia. Galia, Balma. On n'a plus le choix. La première réunion, c'était, vous avez le choix de choisir l'école que vous voulez. Les parents qui veulent garder leurs enfants à Badiou, ils auront le choix. Et après les réunions, le discours, il change. La dernière réunion, il n'y avait plus de choix. On doit choisir ce que vous avez choisi. Les enfants de Galia, ils sont scolarisés à Balma. Est-ce que vous écoutez les parents au moins? Il y a des enfants, ils ne peuvent pas faire ce trajet de 7h du matin jusqu'à 18h30. Il y a des enfants, ils font des activités sportives. Il n'y aura plus de vie famille. Moi, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils rentrent et ils mangent à la maison. J'ai envie de discuter avec lui. Les enfants, ils n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a qui veulent manger à la cantine. Mes enfants, ils ne veulent pas. Est-ce que vous écoutez les parents? Vous n'allez pas déplacer un banc de la Rinerie jusqu'à Balma. C'est mon enfant. La première réunion, on était avec vous. La première réunion, j'ai assisté, on est venu, on était contents, on est avec vous, on est pour la mixité. Chacun de nous, il a laissé son pays, il est venu, on a fait un pas, on a fait la mixité, on n'est pas contre. Quand on a assisté à la première réunion, on est avec vous pour faire un travail de groupe, vous, professeurs et parents. Mais avec ces réunions-là, qu'est-ce que j'entends? J'entends, madame, vous êtes là juste pour écouter nos décisions. Pour moi, il n'est pas pris. Ce qui est pour moi, mon enfant, ce n'est pas pris. Non, il n'y a personne qui va prendre la décision à ma place. On est là pour, avec vous, on n'est pas contre vous. Pourquoi vous entendez les parents à chaque fois dans les réunions, mais vous n'écoutez pas? Moi, je n'arrive pas à comprendre. On n'arrive plus à dormir. Chaque réunion, j'ai mal au ventre. Vous parlez... Quand on a dit on veut participer aux devoirs avec nos enfants, même ce droit, on ne l'a plus. Vous avez dit que les enfants, ils vont faire les devoirs là-bas. Ça ne sert à rien qu'ils rentrent, moi, à 19h. Il vaut mieux qu'ils restent à l'école jusqu'à vendredi, je le récupère.
Merci. Merci, madame. Merci.
Il y a un travail pour lui, qui, pour ses compétences. Je suis devenue plus qu'un handicapé. Et je suis rentrée à la maison et je suis obligée de rester chez moi. Il me reste quoi comme espoir? C'est mes enfants. La chance que je n'ai pas eue, moi. J'espère que mes enfants, ils vont avoir, c'est leur droit. Ils sont français. Quand une maman, il a posé une question dans une réunion, il a dit, est-ce que, pourquoi les autres, ils ne veulent pas venir? Ah, madame, parce que c'est trop loin pour eux, ils ne veulent pas venir. Ça veut dire quoi? Pour moi, qu'est-ce que je vais enseigner à mes enfants? Les autres, ils ont plus droit que toi. Non. Et les Françaises, comme les autres, il a le droit de choisir, de penser, de réfléchir.
C'était une parent d'élève de l'école primaire Galia, donc elle le dit dans son intervention. C'était enregistré lors d'une réunion publique avec le conseil départemental qui était là pour soi-disant écouter. Hein, donc évidemment, nombre de parents présents n'étaient pas dupes. Alors évidemment, les réunions de concertation se déroulent un peu de la même façon partout, mais à cela il faut ajouter le rapport très particulier que la police entretient avec ses quartiers. L'omniprésence des forces de l'ordre construit des parcours où la prison devient une annexe du quartier. Le moindre petit illégalisme peut vous conduire à avoir un casier, et ce casier vous amène en prison par le jeu notamment de la comparution immédiate. Allez donc vous promener une fois en comparution immédiate et vous verrez le racisme qui s'y déploie. L'expérience de la répression façonne le quotidien des quartiers. D'ailleurs, les plans de rénovation urbaine entamés sous la forme de grands projets de ville au début des années 2000 intègrent la police dans la conception du projet urbain. Favoriser la visibilité, aménager les routes pour permettre les interventions, casser les circulations, etc. Ce sont les garçons plus ou moins jeunes qui sont les plus concernés, mais de fait ce sont les familles entières qui se trouvent embarquées dans ce rapport. La géographie du trafic doit interroger. Si la consommation de drogue a lieu dans de nombreux endroits, sa vente et les problèmes qui en découlent, répression et régulation du marché, ont lieu dans des espaces façonnés par les rapports de race et de classe.
Mes questions, les voilà, elles sont simples. Regarde, pourquoi nous sommes des voyous?
Non, je veux te poser,
je t'explique. Là-bas, tu as une association des exilés politiques. Là, tu vois là,
exilés politiques. On va aller même devant.
Ah ouais. Eh bien, ceux-là, il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un noir pour recevoir les étrangers. On tourne ici. Là, c'est Rennerie Service. Là. Hein? Rennerie Service au deuxième étage, je t'explique. Tous les bronzés, ils travaillent dehors avec le balai. Et tous les blancs, ils travaillent dedans dans le bureau. C'est comme ça. On continue, Mireille Formation. Pareil, il n'y a personne du quartier, personne qui vient voir. C'est les contrôleurs, c'est les gendarmes de la misère. Tous les RMI, s'ils viennent, ils disent bien. Alors, tu travailles? Tu fais quoi? Va te faire exploiter, sale chien. C'est ce qu'ils veulent pour de nous. Et bien voilà, tous ces gens-là, ils sont contre nous. Je t'emmène à Motorola, il n'y a que des blancs qui sortent. C'est une zone franche. Je t'emmène partout. Là, ici, il y a une société qui s'appelle Envoi. Il y a un Harbi. Et il y en a un autre de Bellefontaine, il l'a embauché. Le reste, c'est que des blancs. Comment ça se fait? Mais dites-moi, c'est vous qui voulez qu'on soit des voyous, bande de chiens? Arrêtez de nous la faire à l'envers. Vous voulez? Tu crois que je vais te regarder me vivre bien? Moi, je vais rester comme un chien. 4 ans, je vais rester dans la misère à vous regarder vivre comme des chiens. Je reviens dans le pisse, bande d'enculés. Parce que c'est tout ce que vous méritez, la France, c'est tout ce qu'elle nous a laissé. Et arrêtez de nous la faire à l'envers. Tu veux vraiment qu'on s'arrange? Vas-y, ouvre-moi des portes. Ouvre-moi, donne-moi un boulot à 2000 euros par mois. Hein? Pourquoi tu veux me trimer, moi? Hein? Tu veux que j'aille vers la soufflette toute la journée, là? C'est tout ce que tu m'as trop proposé. J'ai pas d'appartement, j'ai rien, je t'emmerde. J'ai le pisse, c'est tout ce que j'ai. C'est vous qui l'avez voulu, c'est pas nous. Toi, t'as voulu vendre du sucre, vendre du lait, vendre des pommes de terre, vendre tout. Faites tout ce que vous voulez, vous, en France, mais nous, on n'a rien. Vous nous avez rien laissé, c'est comme ça.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est un dénommé Super T qui s'exprime dans une vidéo qu'on trouve sur YouTube. C'est un habitant de la Rennerie. Le son est un peu plus long, on l'a passé plusieurs fois sur les ondes de Canal Sud. Il est assez édifiant dans ce qu'il dit, dans son analyse qui est assez juste, qui mêle vraiment les rapports de classe et les rapports de race de manière assez fine.
La mort ne vient pas seule. «
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. Putain, j'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Et le regard des curieux communique linceul. Même le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, bah faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine. Tiens un ancien para, quelques arrivistes. Ces mecs là c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite.
Et c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
la mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
charognard.
Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent. Qu'on est un être humain même si on est truand. Que ma mise à mort n'a rien de légitime.
Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère?
Dis un père béret basque, un jeune besoin de tuer.
Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère?
Répond le jeune pour finir. Et monsieur Blanc Cassis continue son délire. Convaincu que déjà mon âme est chez le diable. Que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence.
Et c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
la mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça ne comportera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau.
Y'a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles et je crève aux Champs-Élysées.
Elle n'a même pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort.
Et c'est bien fait pour sa gueule.
Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ces quelques larmes me réchauffent le corps.
Ce n'est qu'un petit salaud.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau.
On portera pas le deuil.
C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Et c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça,
on portera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
la mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça,
on portera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
charme.
Et c'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça,
on portera pas le deuil.
C'est bien fait pour ta peau,
la mort ne vient pas seule.
C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud.
Ça,
on portera pas le deuil.
Promenons-nous dans la ville pendant que l'urbaniste n'y est pas. S'il y était, il nous chasserait. Mais comme il n'y est pas, il nous chassera pas.
Urbaniste, y es-tu? Urbaniste, entends-tu? Urbaniste, que fais-tu?
C'était Brasero, Brassage Radio. On a entendu notamment un grand extrait, non pas un extrait, mais l'intégralité du podcast Les Couilles sur la Table. Un podcast de binge audio, ou binge audio, je ne sais pas bien comment on dit, qui est fait par Victoire Tuaillon. À très bientôt.
Radio Canal Sud 92.2, 40 rue Alfred de Miril, numéro de téléphone 05 61 53 36 95. Pour l'antenne et pour le bureau, c'est le 05 61 25 95 43. Voilà. Canal Sud 92.2. Voilà.